Le journal est présenté par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour. La terre qui tremble à nouveau au Mexique, 5 mois après le séisme qui avait fait plus de 400 morts dans le sud du pays. C'est cette même région qui a été longuement secouée. Cette nuit, magnitude 7,2 ressentie jusque dans la capitale Mexico où les dégâts matériels sont importants, mais pas de victimes directes à déplorer pour le moment. Quelques heures tout de même après le séisme, l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur mexicain s'est écrasé. Alfonso Navarrete est sain et sauf, mais il y a au moins 2 morts au sol. En Allemagne, le Parti Sociaux-Démocrate face à ses divisions sur l'opportunité ou non de former une nouvelle coalition de gouvernement avec la CDU d'Angela Merkel. Ce samedi démarre la campagne interne au SPD en vue du vote par correspondance des militants à partir de mardi. La base du parti semble réticente à cet accord gauche-droite, mais les derniers sondages en Allemagne semblent montrer que le camp sociaux-démocrate aurait beaucoup à perdre à refuser l'alliance et à provoquer de nouvelles élections. C'est l'analyse de la professeure d'histoire allemande contemporaine à la Sorbonne, Hélène Millard de la Croix.
Ça peut être tout à fait un électrochoc parce que un des avantages, si vous voulez, du travail que font les journalistes et des sondages d'opinion donne une idée de ce qu'est l'état de l'opinion face au SPD. Et on voit que depuis le 24 septembre où le SPD avait obtenu 20% des voix, c'est-à-dire le pire résultat de toute son histoire, il aurait dégringolé à 16%, c'est-à-dire juste un point avant la AfD, ce qui pourrait, je pense, être une espèce d'électrochoc pour les militants qui, peut-être tentés par cette cure d'opposition, peuvent se dire que non, la responsabilité historique de ce parti est d'assumer le pouvoir lorsqu'il le faut, parce que si jamais on retourne aux urnes, si le SPD dégringolait derrière le parti populiste de droite, ce serait vraiment la fin de ce parti dont il faut bien se représenter qu'il a l'air faible et un petit parti. C'est le grand parti ouvrier de tradition ouvrière d'Allemagne, créé en 1873 et qui a porté des gouvernements très très efficaces, Willy Brandt, Helmut Schmidt, enfin Gerhard Schröder aussi. Enfin, c'est très dramatisé, si vous voulez. Donc, ces mauvais résultats qu'on voit dans les sondages peuvent faire cet électrochoc et conduire la base à aller vers l'idée d'une grande coalition pour permettre au gouvernement de quand même reprendre la main.
Hélène Millard de la Croix qui était l'invitée du journal de 22h de France Culture hier soir avec Mathieu Laurent. Une coalition de gouvernement, c'est justement par ce biais que l'extrême droite est revenue au pouvoir, cette fois en Autriche. Le FPE, depuis, met en place sa ligne politique et ça passe par une tentative de réécriture de sa propre histoire. Mardi, il annonçait la création d'une commission d'historiens sur son passé. Est-ce qu'elle reviendra sur la création du FPE en 1956 par d'anciens nazis ou encore sur les dérapages antisémites de son ex-leader Jörg Haider? C'est loin d'être sûr, tant l'impartialité de cette commission est déjà contestée à Vienne, Isorias.
Pour le moment, seul le président de cette commission est connu, Wilhelm Braunheder. C'est un juriste, ancien député du FPE. Les historiens qui composeront la commission seront choisis dans les jours à venir. Le FPE a expliqué qu'il souhaitait des chercheurs critiques. Problème, très peu d'organisations veulent y participer. Beaucoup doutent de la volonté réelle du parti de faire face à sa propre histoire et dénoncent le choix d'un président partial, connu pour avoir écrit dans des revues controversées. Pour l'instant, seul le DOE a accepté l'invitation. Andreas Peham travaille dans cet organisme de référence pour la recherche sur l'extrême droite.
On veut leur donner une chance. Ainsi, ils ne pourront pas nous présenter comme des méchants gauchistes qui boycottent leur initiative. Nous verrons si ça débouche sur quelque chose d'intéressant. Sinon, nous nous retirerons.
Mais le DOE conditionne sa participation à l'indépendance des historiens qui composeront la commission. Et selon Andreas Peham, le FPE n'a pas vraiment envie d'aller au bout de ce travail de mémoire.
Si Heinz Christian Strache voulait vraiment aller au bout de cette initiative, il se retrouverait seul. Je ne crois pas qu'il soit sincère. C'est juste indispensable pour son parti d'envoyer des signaux positifs. Mais au sein du FPE, rien ne va changer.
Avis partagé par l'IKG, l'organisation de la communauté juive d'Autriche, qui juge cette commission peu crédible. Le FPE a annoncé qu'un premier rapport de travail devrait être rendu à l'automne prochain.
Isorias à Vienne pour France Culture. Un coup d'accélérateur dans l'enquête américaine sur l'ingérence présumée de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016. Hier, le procureur spécial Mueller inculpait 13 ressortissants russes accusés donc d'avoir, dès 2014, intoxiqué la vie politique américaine par du lobbying et des fausses informations, et ce, pour favoriser une victoire de Donald Trump. C'était il y a tout juste un an à Aulnay-sous-Bois l'interpellation d'un jeune homme qui débouchait sur une mise en examen pour viol à l'encontre d'un policier. C'est l'affaire Théo dont l'instruction devrait prendre fin dans ces prochains jours avec les conclusions transmises de 2 expertises médicales. 2 expertises que vous avez pu consulter, Emmanuel Leclerc.
La première expertise médicale révèle que le bâton, la matraque télescopique utilisée par le policier d'Aulnay-sous-Bois, n'a en réalité jamais pénétré l'anus du jeune homme. Le coup a été porté juste à côté, donc il a malgré tout déchiré le muscle du sphincter sur près de 10 cm. Mais judiciairement, le fait qu'il n'y ait donc pas eu pénétration devrait entraîner un changement de qualification dans ce dossier où le policier mis en cause avait été mis en examen pour viol. Dans ses conclusions, selon nos informations, l'expert affirme qu'il n'y a pas de séquelles à prévoir. La deuxième expertise estime de surcroît que le geste du policier n'était pas contraire aux règles de l'art. L'usage de la matraque est survenu après que Théo s'est rebellé, qu'il y a eu une bagarre et qu'il a refusé par la suite de se laisser menotter. La juge en charge de ce dossier devrait clôturer son enquête la semaine prochaine. Elle devra donc décider si ce coup de matraque était finalement légitime ou qu'il s'agissait malgré tout d'un usage disproportionné de la force par un gardien de la paix.
Et sur ce dernier point, l'avocat Antoine Véry, avocat de Théo, indique que selon lui, ses conclusions ne remettent en rien en cause ces mauvais traitements et cet usage disproportionné de la violence policière. Les abords des aéroports de Nice et de Roissy, près de Paris, sont compliqués ce matin par des barrages filtrants, barrages de chauffeurs de VTC. À l'appel de la CFDT, ils déclenchent aujourd'hui un mouvement social illimité pour pousser l'État à forcer leurs employeurs à mettre en place un tarif minimum pour les courses les plus courtes. Ils demandent ainsi une égalité de traitement avec les taxis traditionnels. La météo, enfin, de la neige en pleine ce matin sur le nord-est. Des pluies continuent toute la journée du Massif central à la Franche-Comté. La journée sera perturbée donc du côté du ciel. Des nuages également sur la moitié sud et des températures qui ne dépasseront pas les 7 à 14 degrés cet après-midi du nord au sud. Les journaux de cette matinée étaient réalisés avec M. Le Chili. À 12h30, vous retrouverez Mathieu Laurent.